Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes le 30 mai. Le journal, Bernadette Chamonaz. Bonjour Bernadette.
Bonjour. Le risque de décès post-opératoire pour les malades atteints du Covid multiplié jusqu'à 8. L'étude de la revue The Lancet qui doit rendre extrêmement vigilant avant toute opération. Déconfiné, vous pouvez voguer à nouveau sur le canal du Midi. On vous y emmène. Un secteur très éprouvé par la crise, celui des saisonniers. Ils demandent un dispositif chômage spécial pour eux. Municipal, les marcheurs à la peine, notamment à Paris, on fait le point. Et puis le repos des héros quand les professionnels du tourisme offrent des vacances aux soignants.
Allez, on fait un point aussi sur les invités de la matinale. À 8h10, Patricia Martin, vous recevrez
Chloé Morin, qui est directrice de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès, et nous parlerons notamment des conséquences politiques de la crise du Covid.
Et à partir de 8h20, question ce matin à Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la France. Vos questions à Nicolas Dupont-Aignan, c'est maintenant 01 45 24 7000.
France Inter.
On en apprend donc chaque jour un peu plus sur ce coronavirus, Bernadette.
Et sur ses conséquences pour les malades, l'étude mondiale que publie aujourd'hui la revue médicale The Lancet apporte une information capitale. Pour les personnes qui ont contracté le virus et qui vont se faire opérer, le risque de décès est multiplié jusqu'à 8, d'où l'importance, Véronique Julia, d'un dépistage préopératoire.
Les patients de l'étude ont été opérés entre le 1er et le 31 mars dernier. La moitié avait plus de 70 ans, des hommes, des femmes qui ont subi des interventions variées, urgentes ou programmées, plus ou moins graves aussi. Ça va de la banale opération de l'appendicite à la chirurgie d'un cancer du côlon. Dans la plupart des cas, le diagnostic du Covid a été posé après l'intervention. Résultat, chez tous ces patients, la mortalité à 30 jours est de 24% quand elle devrait être inférieure à 3%, et des complications pulmonaires concernent plus de la moitié d'entre eux. Toutes les chirurgies sont concernées, même si les risques sont d'autant plus grands que la chirurgie est lourde et que le patient est un homme âgé. Alexis Arnaud est chirurgien, coordonnateur français de cette étude et du réseau international Covid Surge.
On a l'impression, en fait, finalement, que la chirurgie est un déclencheur de l'aggravation de la pathologie liée au SARS-CoV-2. En fait, 80% des décès sont liés aux complications pulmonaires dans cette série.
Compte tenu de ce sur-risque très important, les auteurs de l'étude concluent que dans le contexte actuel où la pandémie n'est pas terminée, la décision d'opérer doit être portée autant que possible s'il existe des alternatives pour la prise en charge du patient. Ils insistent aussi sur l'importance d'un dépistage préopératoire pour tous les types d'interventions.
Oui, d'autant que les hôpitaux reprennent en ce moment les interventions qui avaient été reportées à cause du virus. Ce virus qui est bien sûr toujours là en France, plus actif, on le sait, en Île-de-France, Guyane et Mayotte, des zones qui sont classées orange. Depuis le 11 mai, 109 foyers épidémiques ont été repérés et aussitôt contrôlés. Autre bon signal, la baisse constante des malades en réanimation. Ils sont actuellement 1361.
L'épidémie est freinée et donc le déconfinement va, lui, s'accélérer.
Dans la capitale, déjà, où les Parisiens qui ne peuvent pas fouler les pelouses des parcs depuis 2 mois vont pouvoir le faire dès aujourd'hui. Les parcs et jardins ouvrent leurs portes dans moins d'une heure pour certains. Dans le sud, sur le canal du Midi, les écluses vont rouvrir en mardi et les professionnels du tourisme fluvial scrutent l'horizon. Le touriste va-t-il revenir ?
Même si le canal du Midi peut à nouveau accueillir des touristes, beaucoup de professionnels ne cachent pas qu'ils attendent le client, un client qui ne va pas forcément revenir tout seul. Jean-Luc Fontaliran, maître d'hôtel sur le bateau Occitania à Toulouse, il rouvre le week-end prochain.
Tout le protocole mis en place est bien entendu appliqué, c'est-à-dire la distanciation de 1 mètre minimum entre chaque client, c'est-à-dire à peu près de 2 mètres entre chaque table. Un nombre restreint bien entendu, puisque la capacité est de 90 clients et nous aurons une moyenne de 30 personnes.
Pierre Cardinal du réseau fluvial toulousain voit 3 freins au retour des touristes.
Ils sont encore confinés, donc ils ont encore dans la tête tout ce qu'ils viennent de vivre. Deuxième raison, ils ont des problèmes d'argent. Et la troisième raison, les licenciements.
Didier Carole a un petit restaurant à la maison éclusière de Castanet, près de Toulouse. Il va devoir repenser le concept même de son estaminet.
Malheureusement, avec les nouvelles normes, ça va être un peu plus compliqué d'imaginer de continuer les buffets. Et donc, je suis actuellement en train d'essayer de recruter un chef.
Les professionnels du secteur fluvial sont impatients de revoir des clients, car ils ont déjà perdu quasiment 2 mois de recettes. Toulouse, Stéphane Iglesis, France Inter.
Oui, c'était un reportage de Stéphane Iglesis. Des campings, des restaurants, des bars qui, on le sait, n'ouvriront que de façon limitée étant donné les conditions sanitaires qui leur sont imposées. Et par ricochet, on estime que près de la moitié des saisonniers habituels ne trouveront pas de contrat cet été. Pas de contrat, pas de chômage. Pour ces 150 000 personnes qui vont se retrouver sur le carreau, le gouvernement doit imaginer un dispositif spécifique, estime au micro de Laurent Kramer le responsable saisonnier à l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, Thierry Grégoire.
Comment on réforme le dispositif de chômage partiel ? Il va falloir quand même couvrir tous ces salariés-là. Comme on vient de le faire pour les intermittents, une extension de leur couverture de droits jusqu'au 31 août 2021, parce qu'on peut pas les laisser dans une immense précarité. Certains reprendront, d'autres pas, et restera donc au chômage, ce que ça veut dire, eh bien, pas une reprise d'activité pour eux, pas avant la prochaine saison, parce que 2 mois et demi de confinement, c'est déjà très long. Alors vous imaginez, jusqu'à la prochaine saison, ça veut dire qu'il y aura énormément de salariés qui auront soit quitté notre secteur d'activité, et il faudra à reprendre, reformer des gens. Donc tout ça, c'est un processus très long qu'il va falloir anticiper avec les pouvoirs publics et le gouvernement.
Édouard Philippe propose de reporter au 4 octobre le référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, référendum qui était prévu le 6 septembre. C'est une conséquence, bien sûr, de la crise du virus. La Nouvelle-Calédonie qui n'a compté que 18 cas de Covid-19.
Les municipales en vue, alors c'est l'heure des tractations avant le second tour.
Oui, car on est à J-3 des dépôts des listes et il y a des alliances qui fâchent. Gérard Collomb, premier des macronistes, qui pactise avec la droite locale à Lyon, colère du patron des députés LREM, il a franchi la ligne rouge. La République En Marche qui voit arriver ce second tour avec inquiétude, notamment à Paris, Karine Bécard, les militants qui doivent défendre la candidature d'Agnès Buzyn.
La difficulté de cette campagne n'inquiète pas Rémi, 22 ans seulement, étudiant et militant dans le 13e arrondissement.
Vous savez, au premier tour, on a été insultés parce qu'on était les représentants d'Emmanuel Macron. Ensuite, on a eu le droit aux insultes avec Benjamin Griveaux. On a le droit, en ce moment même, à des insultes, à des attaques parce qu'on soutient Agnès Buzyn, la traite, la méchante.
Ils ont la peau dure, les militants de La République En Marche à Paris. Donc, quand Agnès Buzyn parle de sa campagne comme d'une mascarade, Aurélie encaisse.
Moi, ça ne m'a pas forcément touchée. J'imagine qu'il y a des personnes, ça les a plus touchées.
En fait, seule l'absence de la candidate pendant près de 2 mois a été mal vécue.
J'aurais préféré qu'on ne laisse pas la place uniquement à Rachida Dati, par exemple, alors que nous, on a été sur le retrait, je peux le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, personnellement, ça m'a un peu perturbé. C'est pas suffisant, sachant qu'on allait possiblement repartir en campagne après.
Possiblement repartir. Il y aurait donc eu un doute, le référent du 14e arrondissement, Alexandre Kimmerle.
J'ai jamais fait de politique avant. Si je me suis engagé, c'est pour porter une voix différente. Si demain, on me dit, bah voilà, il faut faire le projet de quelqu'un d'autre, de Rachida Dati ou d'une autre, bah ça sera non, ça sera sans moi.
Certains semblent avoir déjà disparu de la campagne d'Agnès Buzyn, comme les députés Olivia Grégoire et Paco Rupin.
Reportage donc de Karine Bécard auprès des militants de La République En Marche avant les municipales à Paris. Donald Trump menace à exécution. Il coupe tout lien avec l'OMS. Plus de financement américain. Il accuse l'Organisation mondiale de la santé d'avoir mal géré la pandémie et d'être la marionnette de Pékin. L'OMS perd ainsi 15% de ses finances. Retour en France. Ici, les combattants de première ligne étaient parmi les premiers à profiter de la bouffée d'air du déconfinement dans le Lot-et-Garonne. L'Office du tourisme de Montflanquin a sollicité hôteliers, restaurateurs, parcs de loisirs pour offrir des séjours, des repas aux soignants. Écoutez, Charles Bazillet, c'est le directeur de cet office du tourisme.
L'idée, c'est de proposer des vacances aux soignants pour qu'ils puissent vraiment prendre du temps pour eux, se reposer et oublier cette période où ils ont été là pour nous. Et c'est aussi, voilà, leur rendre la pareil que de penser à eux et de leur proposer des vacances. Ça s'adresse au personnel soignant dans un établissement hospitalier, une maison de retraite, un EHPAD, ainsi que les infirmières libérales et les médecins. Il faudra envoyer juste une pièce justificative pour finaliser leur inscription. Et donc, les soignants tirés au sort vont remporter des séjours. Donc, c'est une partie hébergement et avec des activités. On a une 60aine de lots à proposer. Et donc voilà, en plus d'un hébergement, ils pourront aller dîner gratuitement dans un restaurant, ils pourront bénéficier d'une séance photo, aller dans des acrobranches, faire des activités, des dégustations de vin. Voilà, tout un tas de professionnels qui ont répondu à cet élan solidaire et qui permettront de mieux accueillir tous ces soignants pour venir se se reposer en cœur de Bastide.
Voilà, explication recueillie par Mathilde Dehimy. C'est un tirage au sort qui s'adresse à tous les soignants de France. Pour s'inscrire, il faut aller sur la page internet Le Repos des Héros. Fin des inscriptions le 27 juin.
Et fin de ce journal de Bernadette Chamonaz. Le